Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour et merci de nous écouter sur Canal Académie, la radio web qui donne la parole aux académiciens. Jean-Pierre Mahet de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur de philologie et historiographe du Caucase chrétien, est venu nous parler des traditions orales du Caucase. Bonjour Pierre Mahet.
Bonjour madame.
Dans une précédente émission, vous nous aviez présenté la création des alphabets arméniens, géorgiens et albaniens au 5e siècle, avec les causes, les conséquences à court terme et à long terme. Aujourd'hui, vous allez évoquer une autre forme de transmission, l'oralité, c'est-à-dire ce qui précède, puis ce qui concurrence le monde de l'écrit. Si l'écrit emprunte parfois à l'oralité, l'oralité, elle, ne se nourrit pas de l'écrit. Et pourtant, on peut se demander si elle ne fut pas enfermée dans l'écrit, ou pour mieux vous citer, vous, si elle ne fut pas étroitement encadrée par l'écrit. Jean-Pierre Mahet, l'histoire avec un grand H, qui est en fait la conquête de l'écrit, n'a-t-elle pas rompu le lien avec le genre de la geste ou de l'épopée? Et puis d'abord, en tout premier lieu, quelles sont les caractéristiques de l'oralité? Quels sont ses problèmes en général, en particulier dans les pays caucasiques, entre mer Noire et mer Caspienne? Et dans vos ouvrages, vous avez présenté tous ces problèmes. Dites-nous, pourquoi c'est si difficile d'allier oralité et écriture?
Au départ, l'écriture est une invention très très spécialisée et qui a été impulsée d'une façon autoritaire dans le Caucase pour répondre à des besoins ecclésiastiques, c'est-à-dire traduire l'écriture, faire des lectures publiques de la Bible et célébrer la liturgie. Comme elle était très spécialisée, elle laissait libre tout le champ de la vie. Je veux dire, tout le vaste champ des activités
humaines. La vie quotidienne.
Et ce champ-là, en fait, était encore investi par la mythologie païenne. Donc, au départ, nous avons des genres oraux qui incluent les épopées des dieux ou des héros et qui incluent aussi des lois, des coutumes. La loi n'est jamais écrite, c'est le canon ecclésiastique qui va être écrit. Et puis, qui inclut aussi des genres brefs, comme le proverbe, la fable, le mythe. Et ces genres brefs, ou l'énigme, disons, qui est encore plus courte, évidemment, que le mythe. Et ces genres brefs, ils sont très, très importants, parce que, en réalité, c'est une façon concentrée de retenir des histoires beaucoup plus longues. Par exemple, si je dis que c'est une chèvre qui est dans le ciel et qui combat contre une autre chèvre, là j'emploie une énigme et derrière cette énigme se cache un mythe de l'orage qui va représenter le tonnerre, les formes même étranges des nuages, comme des bovins en train de combattre et de mugir dans le ciel. Et donc, évidemment, il faut d'abord étudier les formes courtes et on comprend ensuite comment des histoires beaucoup plus longues ont pu être mémorisées par les locuteurs.
Alors le proverbe, vous disiez tout à l'heure, est la semence de la fable et l'énigme est la semence du mythe.
Oui, oui, oui.
Alors la fable va être écrite un jour. Alors, et le mythe, oui. Moins. Le mythe est plus rebelle.
Le mythe est beaucoup plus rebelle. Alors, la fable, prenons les proverbes, c'est-à-dire c'est une chose qui n'est pas très claire. C'est-à-dire que pour nous, le proverbe est plutôt une sentence, n'est-ce pas ? C'est « pierre qui roule n'amasse pas mousse » ou des choses de ce genre-là. Ces proverbes-là existent bien au Proche-Orient et dans le Caucase également. Mais on rencontre, à époque assez ancienne, des proverbes qui sont déjà des petites histoires. Par exemple, on demande au chameau « Pourquoi as-tu le cou tordu ?» Et le chameau répond « Qu'est-ce qui te permet de dire que j'ai le cou tordu ? Qu'est-ce qui est droit plutôt en moi pour que tu dises que j'ai le cou tordu ?» Donc on imagine déjà que c'est presque une fable ceci, c'est-à-dire on pourrait développer et ça pourrait devenir une fable. Alors, en réalité, qu'est-ce qui a fait que le proverbe est devenu oral, est devenu fable écrite, et quand est-ce que ça s'est passé dans le Caucase? Bien, on le sait assez précisément. Ça s'est passé à la fin du XIIe siècle. Et c'est corrélatif d'une chose qui, en apparence, n'a pas de rapport, qui est le passage du droit oral au droit écrit. C'est-à-dire que le droit, la loi, dans le Caucase, au départ, c'est uniquement oral. Et si on prend le mot arménien qui veut dire loi, orenk, il est lié à un autre mot qui veut dire orinak, qui est orinak, qui veut dire exemple. Donc la loi, c'est les exemples. Et donc on va, comment dire, choisir un certain nombre d'exemples de comportements, et ces comportements qui se sont répétés vont s'ériger en loi. Mais, bien entendu, tous les exemples ne sont pas forcément recommandables ou bien pas recommandables dans tous les cas. C'est-à-dire, il y a des comportements qui, après tout, sont astucieux, mais peut-être un peu frauduleux, n'est-ce pas ?
Un peu trop
rusé. Je veux dire, on ne peut pas donner comme conseil une façon astucieuse de tromper quelqu'un. Ça ne peut pas rentrer dans la loi. Alors, on voit très bien que la même personne... En arménien, c'est un personnage qui s'appelle Mkhitarkosh. Il va écrire le livre des jugements, c'est-à-dire les exemples qu'il peut ériger en loi universelle pour en faire des lois qu'on va présenter devant les tribunaux. Le problème étant que les Arméniens à cette époque sont souvent jugés par des tribunaux
extérieurs,
musulmans. Et donc, ils doivent présenter leurs lois à eux. Et puis, il y a des exemples de conduite astucieuse, mais finalement peut-être trop astucieuse. Et c'est dommage de les laisser passer parce que, après tout, ça pourrait servir dans des cas particuliers. Et il va les transformer en fables. Et donc, il va raconter de ses petites histoires, avoir sa fable. Et pour que la morale soit sauve, il ajoute une morale à la fin de ses fables.
C'est comme ça que les fables...
Et c'est comme ça que...
Il y a un petit dialogue et puis, pof, il y a une morale.
Et il y a une morale. Alors évidemment, ça n'est pas quelque chose qui est propre à l'Arménie, c'est des choses qu'on rencontre au Caucase ou au Proche-Orient. C'est des choses qu'on rencontre partout et peut-être même bien avant, je veux dire, dès les périodes antérieures à l'ère chrétienne, dans certaines civilisations, on va rencontrer ce genre de choses. Mais l'avantage des exemples arméniens, d'où procède aussi l'exemple géorgien, c'est que c'est à cette époque que ça se fait et qu'on voit très bien les rapports entre la loi écrite et la fable écrite. Et la fable écrite, c'est un proverbe développé. Alors, je vais vous dire encore un proverbe développé qui est une véritable histoire. On a parlé du chameau. On annonça au chameau « Félicitations, te voilà père d'un chamelon ». Il répondit « Pas de quoi me féliciter, la charge est toujours sur mon bas ».
Toujours la morale.
Toujours une morale, mais ça, c'est un proverbe du point de vue. C'est donc uniquement oral. Et maintenant, au XIIIe siècle, on va transformer ces petites histoires proverbiales en fables avec leur morale. Par exemple, on a prêté le petit pois pour le traitement des malades et il en était fier. Ne pouvant plus y tenir, les autres graines et semences se moquent de lui en disant « Notre prince, grâce à qui vivent les malades et les bien portants, ne te rengorge pas ainsi. Tu as l'esprit si vain. C'est pourquoi on t'appelle petit pois, t'enfle d'orgueil, sans savoir que l'on a besoin de toi que pour un instant. » Et là, évidemment, la morale n'est pas tout à fait explicite, mais enfin, elle se devine dans l'apologue.
De proverbes, vous parlez de morale, mais est-ce qu'il n'y avait pas de la poésie aussi, et puis des mythes qui sont carrément, je pense au mythe de Prométhée, enfin le nôtre.
Alors là, Prométhée, c'est un phénomène pan-caucasien. Il y a un des correspondants de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui est décédé récemment, Monsieur Charachidze, qui était un élève de Georges Dumézil et qui était un très grand spécialiste du Caucase et aussi du géorgien, qui était sa langue maternelle. Et il a publié en 1986 un livre qui s'intitulait « Prométhée ou le Caucase ?» en disant au fond que les deux termes ne vont pas l'un sans l'autre. C'est presque interchangeable. Effectivement, on s'aperçoit que dans le Caucase, on a une mosaïque absolument incroyable de peuples. C'est-à-dire que Strabon disait que des gens qui n'avaient pas du tout le sens commun prétendaient que à Dioscurias, c'est-à-dire à Sorumi, on parlait plus de 300 langues. Eh bien, en réalité, il y a probablement 35 familles linguistiques dans le Caucase. Et si ça fait 35 familles linguistiques, ça veut dire 350 langues ou plus, vous voyez, c'est énorme.
Mais elles ont toutes le mythe du géant.
Mais il se trouve que si l'on prend les trois régions principales, c'est-à-dire le sud, ou bien les deux régions principales, le sud et le nord-ouest, avec et le centre également du Caucase, on va avoir à chaque fois une histoire de géant qui est captif, qui est enchaîné,
écrasé,
en haut d'une...
qui a voulu être Dieu, mais qui a été puni.
Oui, qui a été puni par Dieu et qui a été donc mis à l'écart de l'humanité, qui ressemble plus ou moins donc à notre Prométhée. Le seul endroit où ça ne se vérifie pas, c'est le nord-est du Caucase, c'est-à-dire la région peut-être du Daghestan actuel, des Tchétchènes. Et encore, ce n'est pas très probant parce que c'est une des régions où l'islam radical s'est répandu au début du 19e siècle à cause des brutalités des Russes. Les Russes ayant fait des massacres et des persécutions dans ces régions, il y a eu des sectes musulmanes intégristes qui se sont créées et qui ont éradiqué, on peut dire, l'oralité non musulmane qui existait auparavant. Et alors, ces histoires, on les connaît d'une façon très allusive par des fables antiques, par des historiens antiques, c'est-à-dire des historiens antiques qui sont en train de nous raconter une histoire en principe édifiante et chrétienne, et qui tout à coup se mettent à dévier de leur objet et font allusion au conte à dormir debout qui circule dans les campagnes. Par exemple, on va nous dire, il y avait en Arménie, à la période de la fin de l'année, ce qu'on appelle la jonction de l'année, les forgerons d'Arménie tapaient à vide sur leur enclume pour renforcer les chaînes d'Artavazde enchaînées sur le massif. Et ils disaient sur le massif, c'est-à-dire sur le mont Arara, et ils disaient, si nous ne renforçons pas ces chaînes, il se libérera, il sortira de sa caverne et détruira le monde. Et voyant cette abomination, Saint Grégoire l'Illuminateur ordonna que ce jour-là, on fête la fête de Saint-Jean-Baptiste, le précurseur du Christ. Donc, vous voyez, on a une toute petite allusion à une histoire qu'on ne connaît pas très bien, qu'on ne comprend pas très bien, mais qui montre déjà un géant enchaîné. Et heureusement, on a retrouvé au XIXe siècle des gestes oraux qui ont été plutôt recueillis par les ethnologues. Alors, en ce qui concerne l'Arménie, l'ethnologue en question est un certain prêtre qui s'appelait Karikin Servantians et qui avait été chargé d'inventorier les bâtiments à l'est de l'Anatolie, tout à fait à l'est, dans la région du lac de Van, etc. Alors, pour savoir où étaient les églises, les monastères, les différents objets qu'il devait retrouver, naturellement, il allait chez les paysans.
Et là, il y avait des récitants.
Et là, pas tout de suite, vous allez voir. Il entend des histoires et des histoires. Et il publie en 1872 un livre tout à fait scandaleux qui s'appelait « Des lettrés et des rustres » et qui était, au lieu d'être divisé en chapitres, il était divisé en repas. Tous les repas qu'il avait faits chez les paysans. Premièrement, hors d'œuvre, des proverbes, des énigmes. Deuxièmement, plat de résistance, des contes et des fables. Et évidemment, comme dessert, des chansons, des choses de ce genre-là. Et alors, l'objet le plus remarquable de son livre, c'était une histoire qui s'appelait « La porte de Mehesh ». C'est un endroit qui est bien connu, à l'est du lac de Van. Il y a là un rocher et il y a une porte taillée à travers dans le roc. C'est-à-dire, en fait, l'apparence d'une porte, parce que c'est sûr que cette porte ne peut pas s'ouvrir et qu'il n'y a rien derrière,
en fait,
ça sonne pas creux.
C'est une œuvre d'art.
Et juste à côté, il y a une inscription ourartienne, donc du 8e siècle avant notre ère, qui dit « Cette porte est pour le seigneur Khaldi, quand il lui plaira de sortir de la montagne ». Et naturellement, les Arméniens ne pouvaient pas lire cette inscription cunéiforme. Et ils disaient « C'est la porte de Mehesh ». Et chaque fois que le père Karekin demandait « Mais qui c'est Mehesh ?» C'est une histoire très très longue. Et il lui racontait qu'il fallait à peu près une dizaine de jours pour raconter cette histoire au moment des moissons et que le responsable, c'était un maître conteur avec ses apprentis qui lui donnaient la réplique et qui chantaient enfin de certaines parties de la légende. Alors on apprend comme ça que Meher est le dernier d'une lignée de géants qui ont libéré l'Arménie de la domination des Arabes et qui ont cette particularité d'être, de grandir de génération en génération. C'est-à-dire le père est toujours plus petit que le fils et le fils est toujours plus petit que le petit-fils. Et là, nous sommes à la quatrième génération, donc à l'arrière-petit-fils. Et donc, on a un personnage qui est gigantesque. Mais en réalité, cette taille gigantesque ne l'avantage pas parce qu'elle est devenue un inconvénient. Parce que il y a évidemment la croissance, mais il y a aussi le poids des péchés qui se sont accumulés de génération en génération. Oui, c'est symbolique. Et donc, la terre ne peut plus le porter. C'est-à-dire, il est tellement lourd à cause de sa taille que la terre enfonce sous ses pas comme de l'eau, comme si c'était un liquide ou un fluide. En fait, à cause d'une malédiction qui a été lancée contre lui, il ne peut pas mourir. Il ne mourra jamais, mais il ne peut pas non plus rester vraiment vivant. Et donc, il est arrivé à une vieillesse avancée. Il poursuit un oiseau dans les bois et tout à coup, il arrive devant cette roche. Il voit la porte qui est là. L'oiseau se précipite sur la porte et disparaît derrière. Lui-même rentre derrière et il est captif au fond des entrailles de la terre. Et très peu de gens l'ont vu, mais on dit que une fois par an, lors de la transfiguration ou lors de l'ascension, ça dépend des traditions, la roche s'entrouvre. Pourquoi est-ce qu'elle s'entrouvre ? Parce que pour l'ascension, pour la transfiguration, il faut ouvrir les portes du ciel, soit pour laisser monter le Christ, soit pour laisser descendre Moïse et Élie. Si on ouvre les portes du ciel, ça veut dire que la fatalité planétaire n'est plus sensible sur Terre. Et donc, tout ce qui est mou devient solide et tout ce qui est solide devient mou. Donc la roche elle-même s'amollit et voilà que le héros peut se libérer. Ou presque, n'est-ce pas ? Presque.
Deux fois par an, il a une tentative ?
Oui, deux fois par an.
Qui échoue
de toute façon. Parce que juste au moment où il va enfin sortir, la roche se referme et tout rentre dans l'ordre
intérieur. Parce que les forgerons tapent très fort ?
Alors, l'histoire des forgerons est une autre variante du mythe, une variante probablement plus ancienne et qui rejoint d'ailleurs d'autres mythes caucasiens. Le Prométhée géorgien, il s'appelle Amirani. Amirani, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est la même chose que Meher. C'est-à-dire que vous avez un préfixe A qui est très courant dans les langues caucasiques du Nord-Ouest. Par exemple, au lieu de dire cosmos, on dit A cosmos en apraz. Eh bien, après ça, vous avez un radical qui est Mir. Mir, c'est la même chose que Mitra ou Mehesh. Et puis, vous avez un suffixe qui est Ani. Donc, il s'agit en réalité du même personnage qui est attesté dans deux groupes linguistiques différents. Alors, Amirani, lui, c'est pas tout à fait pareil. Il est né dans des circonstances tout à fait extraordinaires, des amours d'une déesse et d'un chasseur. Et sa mère avait bien prévu qu'il serait trop fort et que ça le rendrait malheureux. Et donc, elle a prié un autre chasseur qu'elle a rencontré, Dieu sait comment, elle l'a prié de lui ouvrir le ventre et de sortir l'enfant avant terme. Et une fois que l'enfant est sorti de son ventre, on le place pendant quelque temps dans la panse d'une génisse, enfin, mais on ne lui permet pas de venir à terme parce qu'il serait trop fort et il détruirait le monde. Et voilà que, effectivement, il devient extrêmement fort, personne ne lui résiste, etc. Et à un certain moment, une seule fois dans sa vie, il rencontre quelque chose qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire, il y a un géant qui est mort et qui était son ennemi. On emmène ce géant en terre et le char funèbre cahote et tout à coup, la jambe du géant tombe par terre. Et la mère du géant interpelle donc Camille Lanier et lui dit « Si tu n'es pas une mauviette, relève la jambe de mon fils et remets-le sur son chariot. » Et là, il n'y arrive pas. Il prie Dieu et Dieu lui donne un surcroît de force. La force de plusieurs avalanches. Et une fois qu'il a eu ce surcroît de force, eh bien, c'est ça qui va entraîner son malheur. Parce que maintenant, plus rien ne lui résiste. Alors, il défie Dieu à un concours de lancer de montagne. C'est-à-dire, il dit à Dieu, ben voilà, on prend la montagne qui est là, on la déracine et on la jette là-bas. Et si elle tombe bien comme il faut, toi, Dieu, tu n'arriveras pas à la déterrer. Alors, au lancer de montagne comme ça pendant un certain temps, et puis naturellement, Dieu triche, si je puis dire, et il trouve un moyen pour que Amir Lani ne puisse pas redéterrer la montagne et lui dit à ce moment-là, t'as perdu. Et aussitôt, il le fait enchaîner en haut de la montagne, comme Prométhée, et en même temps, il le fait recouvrir de rochers. Et donc, il est à la fois en haut de la montagne et dans une caverne. Et naturellement, à l'intérieur de la montagne, eh bien, il y a un petit chien qui est en train de lécher sa chaîne. Et à force de lécher, il l'use. Et là encore, il faut la reforger tous les ans. Vous voyez, vous avez l'histoire de la chaîne perpétuelle. Et ce chien, naturellement, il a un rapport avec Prométhée. Pourquoi ? Ben parce que c'est un chien aigle. C'est-à-dire, il y a un passage du Prométhée d'Eschyle où l'aigle de Prométhée est appelé le chien de Zeus, comme un terme d'injure. Eh bien, le chien d'Amirani, c'était un petit aiglon pas très beau que sa mère a jeté du haut du nid. Et en tombant par terre, il s'est rattrapé, il lui est poussé des pattes. Et c'est donc un petit aiglon chien. Et donc, il a un rapport manifeste avec l'aigle chien de Prométhée. Et on devine que c'est une fable caucasienne importante qui a été en quelque sorte domestiquée, moralisée par les Grecs, l'histoire de Prométhée. Et vous avez encore un autre héros qui s'appelle Aberskyll. Aberskyll, un héros apprase. Alors lui aussi, c'est un héros très fort et il mène une guerre pour délivrer ses compatriotes de tous les peuples des steppes qu'il réussit à chasser. Après ça, il mène une guerre contre la luxuriance de la nature. C'est-à-dire qu'il y a les fougères qui envahissent tout et qui empêchent qu'on cultive la terre. Alors il détruit les fougères. Il y a aussi la vigne sauvage qui obstrue les chemins. Il enlève la vigne sauvage pour qu'on puisse prendre tous les chemins et dit naturellement, je l'enlève parce que si je devais courber la tête pour passer en dessous, on croirait que je m'incline devant Dieu. Mais en réalité, il n'y a aucune raison de s'incliner devant Dieu. Ce que Dieu peut faire, moi aussi, je peux le faire. Alors, il monte sur son cheval avec une grande peau de bœuf séchée dans laquelle il y a des pierres et il jette les pierres pour imiter Dieu qui jette la grêle sur le monde humain. Finalement, Dieu le voit avec beaucoup de courroux et envoie des anges pour l'enchaîner. Alors, je ne vais peut-être pas vous raconter comment ils s'y prennent pour enchaîner. Bon, mais il l'enchaîne et finalement, il le jette dans une crevasse. Et là, il est tout à fait au fond de la terre. Et alors là, ça s'ouvre jamais. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a la chaîne et il y a aussi son chien. En fait, c'est une vilaine sorcière qui a été changée en chien, hein, qui est à côté de lui, qui essaye de ronger la chaîne. Mais il y a aussi un petit oiseau qui pépille en faisant cuic, 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 cuic. Et donc, qui agace prodigieusement Aberskyll. Et presque chaque année, se reproduit la même histoire. Aberskyll rabasse un marteau qui a servi à l'enchaîner et il essaye de le jeter sur le petit oiseau pour se débarrasser de lui. Mais le petit oiseau s'envole et le marteau retombe sur le piquet et donc il est de nouveau enchaîné à sa place. Et évidemment, c'est un beau jour d'ailleurs. Ses compatriotes décident de faire de la spéléologie, de descendre dans le gouffre pour l'entendre. Et alors, à un certain moment, ils entendent la mastication de son cheval, qui est en train de manger du fer. Ils savent que c'est lui, ils l'appellent, ils se parlent à travers la roche, et il leur dit « Ne cherchez pas à me rejoindre, parce que plus vous vous enfoncez, et plus moi je m'éloigne. Dieu ne nous permettra pas que nous soyons réunis. » Donc c'est encore, vous voyez, l'image d'un titan captif, au fond. Et c'est une image qui est liée au mythe de l'équilibre des éléments. C'est-à-dire que pour que les éléments restent en place, il faut qu'ils tiennent fixement par leur masse. Mais un géant trop fort qui peut déraciner les montagnes, qui peut bouleverser l'équilibre des éléments, qui s'enfonce, disons, dans la terre ferme, évidemment, c'est un péril pour le monde et Dieu doit le tenir absolument à l'écart du monde créé. Et évidemment, ça, c'est un des mythes les plus riches, on peut dire, de l'oralité caucasienne.
À propos d'oralité, chers auditeurs, nous avons eu une expérience tout de suite avec Jean-Pierre Mahé qui est parti dans les mythes et les légendes. Ce n'était pas de la théorie, c'était de la pratique et nous vous en remercions beaucoup. Simplement pour conclure, vous demander si de nos jours, je sais bien puisque nous venons de vous entendre si brillamment tout de suite, mais de nos jours, est-ce que l'oralité perdure dans le Caucase ?
Oui, elle perdure parce que, disons dans les régions les plus montagneuses, c'est-à-dire qu'évidemment, malgré la soviétisation, je veux dire la sédentarisation des populations a entraîné, et puis la diffusion de l'instruction, n'est-ce pas, a entraîné toutes sortes de disparitions. Mais encore, même en République d'Arménie, on a recueilli récemment des gestes ou des proverbes ou des choses orales. Et puis, vous voyez, tout récemment est parue une nouvelle transcription d'Aberskill qui a été faite par l'université de Sokhoumi, à l'heure actuelle en exil en Géorgie. Et c'est ce récit que j'ai lu. Et puis alors, il y a surtout certaines populations qui, au fond, vivent dans leur cadre primitif. Si vous prenez les Sfans, ils continuent de vivre dans leur haute vallée, un petit peu comme Andorre, et de célébrer les fêtes des dieux. Parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ils sont païens. Il y a plusieurs dieux. Le grand dieu, c'est Morigé, celui qui met tout en ordre. Et il a deux auxiliaires qui sont l'archange, c'est-à-dire Saint-Michel. Si ce n'est pas Saint-Michel, c'est le prophète Élie qui circule sur son char de feu. Ça, c'est la police.
C'est pas très
grave. Et puis, il y a Saint-Georges qui arrange tout, hein, qui est un personnage.
Mais ils ne sont pas chrétiens quand même.
Mais, non, ces dieux sont... On peut utiliser, par exemple, des vieilles images chrétiennes, des peintures du XIe siècle pour les représenter, mais ce sont des dieux. C'est-à-dire qu'ils sont bien plus forts que Jésus-Christ. Jésus-Christ est un personnage assez secondaire dans cette affaire. Eh bien, on célèbre la Quiricoba, c'est-à-dire la fête du dieu Quiria, encore aujourd'hui, à la fin du mois de juillet. Et à cette occasion, les Sfans qui sont en train de travailler en Russie, au Turkménistan ou ailleurs, parce que la situation économique les a chassés, eh bien, ils reviennent dans la maison clanique pour célébrer ces fêtes-là. Et donc, ce sont des cultes qui sont encore vivants. L'idéal serait de pouvoir les filmer. Il est encore temps. peut-être de les filmer et d'avoir des documents ethnographiques sur ces cultes qui vont disparaître. Et puis alors, il y a toutes les ethnies montagnardes de la Géorgie. Ce sont des peuples qu'on appelle les Pchavs, les Revsourges, les Touches, etc., qui sont des Géorgiens, mais qui parlent un dialecte spécial et qui continuent de pratiquer le chamanisme, différents rituels, naturellement des tas de prières, naturellement des choses qu'on peut encore observer de nos jours. Les instituts d'ethnographie de l'Académie des sciences, maintenant, ils sont devenus autonomes, ces instituts, mais ils continuent leur travail d'étude sur ces dialectes et sur cette oralité.
Donc, tout à l'heure, nous disions que l'oralité a été canalisée par l'écrit, mais pas totalement.
Ah non,
ça n'a pas réussi totalement.
Et ça sera notre conclusion. Il y a eu un long combat, c'est-à-dire que le champ de l'écrit s'est agrandi progressivement. C'est-à-dire qu'on est passé de la Bible à la littérature chrétienne, puis de la littérature chrétienne à une littérature profane qui, par exemple, en Géorgie, arrive au XIIIe siècle, en Arménie, beaucoup plus tard, pas avant le XIXe siècle, à proprement parler. Si vous voulez, on est très loin de la situation où nous sommes en France. C'est-à-dire qu'il semble qu'en France, on puisse dire tout ce qu'on écrit et écrire tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, je ne sais pas, depuis Louis-Ferdinand Céline, on peut écrire ou sans Antonio, on peut écrire n'importe quoi, même si c'est une absurdité ou une grossièreté, c'est une convention littéraire qui est admise. Tandis que, bien évidemment, il y a là-bas des choses qui ne sont pas faites pour être écrites. Ne serait-ce que si vous êtes à table, à un festin, bien sûr, les conversations particulières sont interdites, bien sûr, il ne faut parler que quand le maître du festin vous donne la parole et le verre à la main, le verre ou la corne à boire à la main. Et à ce moment-là, vous allez dire un certain discours de verre qu'en Géorgie, on appelle les discours pour prolonger les jours, et qui sont typiquement faits de formules orales traditionnelles et qui ne doivent pas être écrites. Et puis, je dirais, en Géorgie, il y a aussi le chant. Et ça, le chant, c'est aussi une autre forme d'oralité, c'est-à-dire c'est vous êtes à un festin, au bout de la table, il y a des convives, et tout à coup, au milieu du festin, ça part en musique polyphonique, a cappella, à trois ou cinq voix, et c'est une forme saisissante, on peut dire, d'oralité.
Presque la plus belle, parce que c'est la plus poétique.
Ah oui, c'est la plus poétique. C'est-à-dire, la Géorgie, c'est un pays dans lequel les hommes chantent à proprement parler. Il y a deux genres de chants. Il y a Simchera, qui veut dire le chant profane, si je dirais, et puis il y a Galoba, qui est le chant religieux. Et les femmes ne chantent pas, c'est-à-dire qu'elles en chantent. C'est-à-dire, elles chantent des incantations pour, par exemple, contre les démons des fièvres, pour amener la pluie, etc. Et c'est évidemment un type de chant tout à fait différent de celui des hommes, traditionnellement. Bien sûr, à l'heure actuelle, les choses sont quand même en train de se mélanger et de s'accorder. Et puis, il existe des musiques de variété à l'européenne qui viennent tout brouiller.
Qu'est une autre forme de transmission, l'oralité, c'est-à-dire ce qui précède, puis ce qui concurrence le monde de l'écrit. Si l'écrit...
Merci bien.